Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast mensuel, ou je ne sais pas d'ailleurs trop, le podcast du Val, avec Darky, ça va la pêche, la
banane. Bonjour,
banane.
La pêche, la patate.
Nous sommes également avec Jeff.
Toujours la banane, moi, de mon côté.
Hein. Et nous sommes aussi avec Flavie. Flavie, ça va que tu restes 30 secondes
je
juste pour chanter une chanson.
Peu de temps.
Tu vas faire des gâteaux, c'est ça?
Oui.
Trop bien.
On veut des gâteaux.
Alors.
Et il y aura des gâteaux.
Comme c'est la tradition pour ce troisième podcast du Val, c'est Jeff, parce que j'ai proposé le premier sujet, Darky a proposé le second. C'est donc au tour de Jeff de proposer son sujet.
Que nous ignorons encore.
Jeff,
alors c'est bon, je peux me lâcher là.
Tu peux te lâcher, c'est bon, tu peux le dire.
Alors tout simplement, effectivement, jeu de cartes, on pense souvent à Magic et autres. Je pense que c'est une des inspirations, je le pense. Moi de mon côté, justement, ayant pratiqué un peu de Magic, le jeu que je pratique surtout, moi, c'est le poker. C'est un jeu que j'aime beaucoup.
Sans le sujet arriver gros comme une maison, bluff.
Bah, t'as tout compris exactement. C'est quelle est la part de bluff dans le jeu Leval?
Et si tant est
qu'il y a vraiment du bluff ou qu'il n'y en ait pas, enfin bref, quelle est sa place, quelle est sa proportion, dirons-nous?
Alors la proportion, c'est dur à dire. Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait?
Réponse dans ce cas-là, Fly.
Mais non, mais moi je participe pas au podcast.
Ah d'accord.
Je vois pas pourquoi tu m'as appelé en fait.
Pour chanter.
Mais oui, mais je vais pas attendre
chante
à côté de vous.
Chante.
On va avaler
Merci.
Amen.
Voilà, c'était ma partie.
Tout ça pour ça, quoi.
Et c'était Fly Me to the Moon.
Ok, t'as quoi comme micro, toi? T'as le soleil, c'est
le
ça
soleil
et toi, le...
Okay. Alors, le bluff ovale. Le bluff ovale. Ça va très loin. Alors,
On aurait pu faire aussi le sujet le portrait ovale, mais ça, c'était une autre histoire.
Je ne comprends pas.
C'était une nouvelle d'Edgar Poe, le portrait ovale. C'était nul, je l'avoue. Allez, le bluff ovale, on y va, c'est parti.
Alors, justement,
la part du bluff,
si,
c'est dur, c'est vraiment dur.
C'est, y a-t-il éventuellement des techniques qu'on utilise au poker?
Oui.
Est-ce qu'on va dire une part de poker dans le Val?
Alors,
j'ai une première partie de réponse, qui n'est pas la plus... celle qui viendrait en premier lieu, je pense, comme réponse, ce serait... t'en as une très très importante qui part presque dans le metagame, qui est un peu comme quand tu vas affronter un joueur de poker que tu connais bien, tu sais qu'il a tendance à jouer comme ça. Tu vois cette...
Donc on va dire qu'il y a le côté comprendre les habitudes d'un adversaire régulier.
Et ça fait partie du bluff. Moi par exemple, je parle tout le temps de mon roi amoureux, dès que je pose un accompli. J'essaie d'instaurer cette image de moi qui va tout le temps faire le fourbe sur un accompli, je pose dès que je peux. Une dame.
Donc, entre guillemets,
le roi amoureux, c'est lorsque on pose un accompli et que, en cœur de ce roi, plutôt que de mettre un arcane de cœur classique, on choisit de mettre la reine de cœur.
Par exemple,
si c'est le roi de cœur, on a le droit de mettre la reine de cœur en cœur. Si c'est le roi de pique, on a le droit de mettre la dame de pique en cœur. La dame peut avoir le roi de pique d'ailleurs en cœur, etc. C'est-à-dire que les rois et reines des mêmes couleurs peuvent servir respectivement de cœur les unes les autres.
Donc en gros, une technique de bluff tout simplement qui te vient tout de suite, c'est de poser de fausses habitudes.
Exactement.
D'instaurer de fausses habitudes.
Bluffer sur ton attitude. Faire
en
celui
gros,
qui
une
genre...
technique d'amadouer un peu l'adversaire.
Exactement.
Par ça.
Exactement. Rome fera un peu pareil. Il aimera donner cette image de personne qui joue tout le temps un fou.
Tout à fait.
Qui est amoureux de ce personnage-là comme intro, alors que s'il y a une partie sérieuse, il va jouer à 100% et...
Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, sur l'accompli amoureux, il y a une grande part de bluff à ce moment-là, parce que c'est vrai que instaurer la crainte de l'accompli amoureux, et donc potentiellement de la création d'un spectre royal en cas d'attaque du cœur par un pique, ça permet de faire en sorte que l'adversaire perde un tour à attaquer le pouvoir de cet accompli avant de s'attaquer à son cœur. Et ce bluff-là est très intéressant. Il permet de faire en sorte que la peur, le bluff, provoque la peur de ton adversaire et cette peur va lui faire perdre un tour d'action. C'est juste monstrueux. Là, tu demandes la part du bluff. En cas de la pose d'un accompli représenté par un roi ou une reine, la part de bluff est monstrueuse. C'est-à-dire que c'est hyper important. Ça peut faire perdre une action, ce qui au Val est très précieux. On rappelle, seuls les personnages ont une action et les joueurs ont une action par tour. Donc en gros, les actions, ça se compte sur les doigts d'une main. Jamais on ne fait plus de 5 actions dans un tour, et encore. Voilà, c'est donc une action, c'est hyper précieux, quoi. C'est comme aux échecs. Un coup aux échecs est critique à chaque fois parce que tu n'en as qu'un seul. C'est 1, 1, 1, 1.
C'est un pas comme un bluff qui passe, c'est décisif quasiment.
Un bluff qui passe est assez décisif.
Donc, effectivement, je. Enfin...
La part du bluff, c'est. Mais je sais pas, c'est quoi? C'est 40% du val, peut-être, le bluff, quoi, en fait.
Attendu que toi et ton adversaire aient la moitié de vos cartes sont retournées et cachées. Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais, le bluff ça. Joue à 40%.
Cette, cette question-là m'est venue en tête rapidement. Donc, pour en situer le contexte, moi, je suis frais dans le jeu, on va dire, au niveau de l'apprentissage. Et c'est la première question qui m'est venue en tête. Au lieu d'en faire simplement un comparatif avec Magic ou un autre jeu de cartes à collectionner, au départ, je suis plus parti sur une idée de poker. Et du coup, je me suis dit, est-ce que les réflexes que j'ai en poker, je vais pouvoir les utiliser directement?
100%. Alors, 100%. Si c'est de l'analyse, alors il y a différents types de bluffs. Le bluff à la mise, c'est-à-dire le bluff en termes d'intensité de mise au poker, ce bluff-là, il n'existe pas au Val. Le bluff de la mise, c'est-à-dire regarde ce que je suis prêt à risquer, donc c'est que j'ai une grosse main. Sous-entendu, regarde, si je suis fait tapis, là, c'est qu'a priori, j'ai ce qu'il faut pour te battre, ou je sais que tu es faible. Ouais. Ce bluff-là, il n'existe pas au Val. Ce qui existe au Val, c'est la dimension bluff qui existe au Val, c'est l'analyse psychologique de ton adversaire. Alors, on peut citer un exemple. Moi, par exemple, j'ai en horreur...
La prise de risque.
La prise de risque. C'est-à-dire que pour moi, chaque action étant décisive, chaque action doit être successful, doit être couronnée de succès. Donc, si je joue quelque chose, je sais que cette chose va avoir un effet. Je répugne à jouer un 5 de pique en me disant j'ai une chance sur deux de l'avoir. Jamais je ferai ça. Il faut que les probabilités soient vraiment avec moi, c'est-à-dire il faut qu'il y ait plus de proba ou que je sois, voire même que je sois certain de passer.
En ce sens-là, contre que... Rome, un pantin est très très efficace.
Voilà, c'est ce qui s'appelle mon aversion, c'est ce que Darky a appelé mon aversion au risque. Et contre moi, du coup, le fait de connaître ma psychologie, en fait, je sais pas si on parle vraiment de bluff là, mais on rentre plutôt dans une dimension psychologique du Val. Ma psychologie.
J'ai l'impression de la façon, enfin, bah, première fois qu'on en parle, enfin, on en parle autour du micro, mais personnellement, je n'avais pas discuté de ça hors micro avec vous. Par rapport à ce que j'entends là, j'ai l'impression que c'est pas fait. Comment tu dis déjà une haine de. Comment
aversion au risque.
Une aversion au risque. Ouais. J'ai l'impression que ce serait même une envie de contrôle de la probabilité aussi, quelque part.
Oui, mais moi, ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est maladif. C'est-à-dire que même parfois. En fait, parfois, on a intérêt à prendre des risques. Et moi, je
pense aussi que
je vais contre mon intérêt en ne les prenant pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus grave que ça.
Typiquement, j'ai deux chevaliers dont un cœur est connu de Romaric. Il veut m'attaquer. Il va se dire, je préfère tuer un de ces chevaliers, tant pis, l'autre va vraiment me faire mal. Plutôt que de comptabiliser le 50% de réussite, admettons, il lance un 5 de pique, il a 50% de chance de mettre très très bien, et donc typiquement, il gagnerait la partie à 50%.
Oui.
Mais donc il serait mal dans les 50 autres pourcents. Il va avoir du mal à comptabiliser. Enfin, j'ai l'impression, hein, je parle pour toi, mais
tu connais mieux ma psychologie que moi-même, en fait. Parce que c'est toi qui m'a mis ça en évidence, en fait. Ouais. C'est toi qui a trouvé ce trait psychologique chez moi et qui en a profité et qui en a tiré avantage pour me battre. C'est toi, en fait, d'où ça vient ça? C'est l'explication de pourquoi pour moi Cédric est un joueur redoutable. On était parti dans cette idée qu'on va expliquer pourquoi Cédric c'est un joueur redoutable. Et en fait, Cédric, c'est typiquement un mec qui utilise le bluff. Le pantin, c'est ce que disait tout à l'heure Darky, la stratégie du pantin, c'est sa stratégie préférée. Et donc du coup, alors qu'est-ce que c'est que le pantin? Rapidement, hein, c'est une formation dans laquelle il y a une carte assez forte, un 7, un 8, et tout autour, en fait, c'est que de la bouse. Et donc, ce 7 et ce 8 qu'on joue constamment, par exemple un 8 ou un 7 de pique, va attirer l'attention de l'adversaire. Il va se dire, oh là, pour qu'il mette un 7 ou un 8 de pique dans cette formation, c'est que derrière, il doit y avoir ce qu'il faut. Et donc, on va essayer de l'attaquer à son cœur, à son trèfle, avec des grosses cartes. Du coup, on va défausser des grosses cartes. Et au final, lorsque la carte défaussée, par exemple, à 8 de carreau, pour attaquer le pouvoir du pantin, de l'épouvantail, va être effectuée, qu'on va résoudre son effet, on va s'apercevoir qu'en fait, on a dépensé un 8 de carreau contre un as de trèfle. Et là, on va être juste dégoûté.
Overkill.
Voilà.
Donc, bon... Toujours dans cette tentative un peu de voir la part du bluff, on va dire, et un peu la petite comparaison au poker. Donc pour l'instant, ce que je note du bluff,
c'est de la psychologie dont on est en train de parler. C'est-à-dire que la question qu'on...
Enfin, je revenais au début, moi. Façon
non, mais voilà, c'est ça. C'est la question que tu poses, Jeff, c'est la suivante. C'est qu'est-ce que le fait d'être joueur de poker... Moi, je reviens à ta question que tu nous posais. Mm-hmm. Qu'est-ce que le fait d'être joueur de poker m'apporte au Val ? Eh ben, c'est la dimension psychologique qu'on va retrouver. D'accord. Mais le bluff, c'est peut-être pas le même. Tu vois où je veux en venir ?
Oui, non.
Il ne faut pas confondre le bluff et la psychologie. Même si il y a une part de bluff qui s'appuie sur des éléments psychologiques, c'est pas la même chose. Donc, comparer le Val au poker, c'est casse-gueule. C'est pas les mêmes techniques pour bluffer, c'est pas le même type de bluff, c'est pas la même pression, c'est casse-gueule. Non, moi je pense que le mieux... Tu voulais revenir sur quelque chose, Jeff, avant que je pense...
Non, c'était éventuellement, donc, en faisant ce constat-là, c'était de partir sur...
La psychologie au Val, c'est un autre sujet, si j'ose dire.
Oui, clairement.
C'est ça que je voulais...
Non, parce que c'est peut-être présomptueux de ma part, mais éventuellement de dresser un peu une carte de points de bluff, on va dire.
Ça roule. Ça, je le fais avec plaisir. Ouais.
Alors, moi, j'ai noté un petit peu ce que vous avez échangé comme propos. Pour l'instant, donc, dès le début, donc, on a déjà un point qui serait donc donné par Darky, qui est cultiver les fausses habitudes.
Le bluff hors game, quasiment. On pourrait appeler ça comme ça.
Bluff donc c'est game, le ouais, cas de la dame ou du roi amoureux où on va justement.
C'était autre chose la façon que Darky l'expliquait, c'est-à-dire que c'est vraiment ça marche plus quand tu joues avec une personne de façon régulière où tu vas instaurer.
Laisser traîner une réputation.
Mais encore une fois, c'est de la psychologie ça, les gars. Il me semble qu'on passe à côté du sujet. C'est le bluff ne s'appuie pas sur la psychologie. Le bluff s'appuie sur des mécaniques.
Oui, mais c'est aussi faire croire à l'adversaire.
Ah, dans ce cas...
Oui, mais le fait que l'adversaire soit... Oui, bien sûr. Mais
non, justement, le fait que t'as un comportement, non ?
Ah, je suis d'accord que c'est lié, mais à mon avis, c'est autre chose. Le fait que la psychologie influence les parties de Val, c'est indubitable et c'est un sujet en soi.
Je veux bien le rayer. De toute façon, ma petite ambition personnelle est qu'à la fin du podcast, on va dire... Il y a au moins, je dirais, je sais pas moi, 4-5 points où on peut vraiment tous se mettre d'accord, qu'éventuellement ça puisse aider des joueurs.
Donne-nous un exemple de bluff.
Un exemple de bluff, c'est par exemple le fou de Main Kent.
J'allais y venir justement.
Alors le fou de Main Kent, c'est le fameux fou faible. Donc encore une fois, on est dans une stratégie de pantin finalement d'épouvantail. Le fou de Main Kent, c'est un fou qui a pour habitude d'être faible, extrêmement faible.
Tout à fait.
Le but de ce fou, c'est de positionner tout autour de lui des arcanes faibles et de nous faire piocher des nouvelles cartes pour recycler les arcanes faibles, échanger les arcanes faibles posées en jeu contre des arcanes fortes de provenues de la source. Et il arrive parfois, tout simplement, que face à un joueur en voulant sauvegarder son carreau, on pose un fou de Main Kent et qu'en fait on lui mette un cœur très fort. Typiquement, par exemple, je mets un as de trèfle. Alors souvent, c'est pas un as de trèfle. C'est souvent un 5 ou un 6 de trèfle, un trèfle moyen. L'autre se dit, oh, fou de Main Kent, un 6 de trèfle, c'est pas suffisant. Et là, on lui a mis un 10 de cœur. Et donc, pour le vaincre, l'autre va préférer l'attaquer au pic plutôt que de l'attaquer au trèfle, parce que comme ça, il va vouloir optimiser. Il va se dire, je vais pas dépenser un 7 de carreau pour battre un fou de Main Kent quand même. Donc, je vais essayer de l'attaquer au pic. Et là, pas d'aboum, pas de bol. En fait, ce fou qu'on pense de Main Kent, il a un 10 de cœur. En cœur. Ce piège ne fonctionne qu'une fois, mais il permet de recycler. Donc ça c'est un très bon piège, un très bon bluff lorsqu'on n'a qu'un seul cœur, par exemple, et qu'à côté de ça, on a un trèfle moyen et un pique pourri. C'est quand on a l'as de pique en fait que cette stratégie se met en place. Voilà, ça c'est un exemple de bluff.
D'accord. Bah bon, pour l'instant là où j'en suis,
la psychologie de l'adversaire ne joue pas. Rationnellement, qu'il ait peur du risque ou autre, ça ne change rien au fait que ici il y a une stratégie de mensonge, c'est-à-dire qu'on fait croire que c'est un épouvantail et en fait c'est une vraie force de la nature.
Je pense que finalement sur le bluff, et on va rester sur le bluff pur et pas sur l'aspect psychologique, clairement je pense qu'on va trouver pour l'instant un point majeur. Peut-être éventuellement d'autres petits points, on verra ça au fur et à mesure. Je dirais donc en rayant l'idée du départ, donc de cultiver les fausses habitudes, le hors-game et compagnie, donc bon, ça on va rayer, je l'ai rayé. J'allais dire, moi au départ, certaines formations quand on parlait par exemple du roi amoureux, de la reine amoureuse, du footman ouais. Kent. Ah
bah ça, c'est
et
du,
du coup, c'est du bluff, mais c'est, on va dire, on peut pas résumer ça par certaines formations. Je pense que ça va être un point beaucoup plus général. C'est entre guillemets la meilleure façon de, enfin pas la meilleure façon de bluffer, mais la plus évidente et la plus facile à trouver dans le jeu Leval, ce serait tout simplement ce que j'appellerais jouer sur les apparences. Je m'explique.
Oui, c'est très intéressant.
Jouer sur les apparences, c'est entre guillemets jouer sur éventuellement une apparence forte, donner l'apparence d'être fort, que sa figure est forte, ou éventuellement l'inverse, que sa figure est faible. Ça s'explique par le Footman Kent, par exemple.
Ouais.
Tu vas instiller le fait que ton fou est peut-être un Footman Kent, donc le joueur va réagir d'une certaine façon. Tu vas quelque part essayer de le forcer à jouer dans ce sens-là, ou éventuellement que ton fou est vraiment fort. Donc dans ce cas-là, pour l'instant, le point de bluff que je vois qui ressort, c'est ça, c'est de jouer sur les apparences.
Pour moi,
est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors Ben,
c'est peut-être lié à la manière dont je joue, mais quand quelqu'un me pose un fou et qu'il dévoile son trèfle, je fais des stats sur son cœur possible et son pique possible, et le gars me bluffe pas tant qu'il me regarde pas dans les yeux et qu'il me dit ah, j'ai posé un fou faible. Pour moi, bluffer, c'est faire croire à quelqu'un quelque chose et après espérer le laisser dans sa tourmente en train de se dire est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment
pas. Et donc, du coup, il y a de la psychologie. C'est ça que tu veux dire. C'est, alors, t'as du mal. Là,
plus simple. J'utilise un trèfle de ma main. Je regarde. T'as une formation que t'as pas utilisée depuis longtemps. Tu vois, ouais. Un accompli. Je regarde son cœur et de manière très sérieuse, je fais un haussement de sourcil et je fais OK, 9. Je chuchote comme
ça. Ouais, ça c'est, okay, voilà, c'est un bluff dont je voulais parler.
Ça,
ouais.
Donc, ça, c'est un bluff.
C'est un bluff.
D'accord.
Ouais, absolument.
Ok, donc ça pour moi, ça c'est du bluff à 100% et un peu plus que poser une formation dont évidemment l'adversaire ne sait rien. Et si tu n'ajoutes pas un petit haussement de sourcil quand tu poses ton truc.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Darky. Tu ne peux que, de toute façon, pour un bluff, tu es obligé d'accompagner ça, je dirais, d'une forme de communication.
D'accord, ok.
Que ce soit un haussement de sourcil, une petite phrase, une façon de poser ta carte.
Là où au poker, ça peut être très mécanique du bluff. Parce simplement, que... avancer ses jetons.
Et
alors
qu'on n'a
rien,
que...
c'est du bluff aussi.
Jeff.
Oui, non, parce que même en faisant ça, enfin, attention, hein, je suis pas un grand spécialiste non plus du poker. Hein, j'ai pas la Rolex du World Poker Tour au niveau de mon poignet.
Faudrait demander à Olivier Sten.
Mais bon, toujours est-il. Là, effectivement, moi, j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord pour le valider, ce truc-là, finalement, jouer sur les apparences.
Ah oui, c'est 100%. C'est le, pour moi, c'est là-dessus. Le bluff. Ouais.
Parce que comme ça, en fin de podcast, on pourra énumérer quelques points.
En fait, jouer sur les apparences, c'est, moi j'ai envie de dire, jouer sur les apparences pour faire croire quelque chose de faux, c'est la définition du bluff, en fait.
Pour moi aussi.
Ouais. Ce que je veux dire, c'est que la dimension psychologique intervient évidemment parce qu'être un bon menteur va faire qu'on va être un bon bluffeur. Mais la dimension psychologique ovale nécessite un podcast dans la mesure où, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui perdent parce qu'ils ont un défaut psychologique. L'aversion au risque, moi, elle me fait perdre. La prise de risque et la volonté d'attaquer systématique de Yann Sunni, elle le fait perdre. Le mec qui veut à tout prix baisser la majesté, qui ne voit que la majesté adverse et qui est prisonnier d'un raisonnement, elle le fait perdre. Le mec qui croit psychologiquement que le cœur ne triomphe jamais parce que psychologiquement, c'est plus dur d'arriver à 100 que de faire tomber l'autre à zéro, cette vision avec des œillères, le fait perdre. C'est ça que j'appelle la psychologie ovale.
Psychologie,
on est loin
oui,
du bluff, là.
Psychologie, oui et non. Je dirais, c'est tout simplement des défauts de joueurs.
Voilà, c'est
ça. Je pourrais t'en lister, moi aussi, des défauts de joueurs.
Enfin,
ne serait-ce que les miens. Moi, je vois grosso modo tout de suite. Moi, ce que je vois, c'est que je marche énormément à l'instinct. Donc, je vais peut-être oublier certaines données techniques du jeu en me disant je sens plus le coup de sortir, je sais pas, telle figure. Sur l'instant,
ouais.
Alors qu'en vérité, si j'avais réfléchi, c'était pas cette figure-là qu'il fallait. Donc j'ai peut-être le côté manque de réflexion
ouais.
Et passer plus sur l'instinct. Je pense que ça, pour l'instant, c'est mon défaut.
À l'inverse, la manière très scientifique de jouer en jouant systématiquement le meilleur coup possible, le meilleur coup possible ne fait pas
et non.
Non plus tout le
temps.
Elle
ne fait pas non plus sans succès, carrément.
Parce qu'il faut faire gaffe au gars que t'as devant toi et à sa manière dont il joue. Et c'est là où, pour moi, le comportement et la réputation du type rentrent en jeu.
Tout à fait.
Et là, vous voyez, là, on est rentré dans un podcast sur le psychologie Eval. Ce qui n'est pas la même chose que bluff Eval. Mais bon, de toute façon, ce podcast, je l'intitulerai bluff et psychologie Eval. Parce qu'à mon avis, on traite déjà des deux sujets.
J'ai un autre petit exemple qui m'arrive de faire sur des,
Ben.
Contre des joueurs nouveaux. On est à notre 8e partie, un truc comme ça, donc voilà, on enchaîne les parties. Tour 1, je pose un accompli, Et puis je fais, allez, et je te colle 10 en touchant ma carte de mon esprit. Je m'apprête à la retourner, puis je fais, ah merde, bah non, on est tour 1. Ah mince, bon bah du coup, bah, j'utilise le trèfle. Hop. Et là, mon petit as de carreau, là, l'adversaire, s'il fait pas gaffe, il va tout le temps considérer qu'il y a un 10. Il va avoir une pression constante si j'ai bien joué. Ça, est-ce que ça, c'est du bluff aussi?
Pas complètement. C'est du bluff, et encore une fois, je pense que ça reste dans le point joué sur les apparences.
C'est le Val. Ça, c'est vraiment. C'est pour ça que je dis, c'est 40% du Val, en fait. Au moins, quoi. Après, t'as l'expérience et tout.
Je pense que, éventuellement, dans les autres techniques de bluff, mais ça commence à rentrer en compte sur ce que tu viens de dire, Ben. Je pense qu'il y a aussi le fait de faire des fautes volontaires.
Ah, carrément. Bah là, il vient d'en citer une.
Il vient d'en citer une. Ouais. Même, bon.
Alors, t'en as une autre en tête, j'ai l'impression.
On va être. Bah, c'est bon, c'est mon petit côté. J'ai envie de toujours dessiner ce plan, on va dire. Je dirais que finalement, ce serait un sous-point du premier qui est joué sur les apparences. C'est effectivement faire des fautes, quoi, volontaires. Celle que tu as dit, par exemple, c'est pas vraiment une faute volontaire, mais
pour moi, c'est juste un mensonge.
C'est un mensonge, clairement. Moi, celle que je voyais que Rome attend, a priori, c'est par exemple de dire attends, je vais te. Ah non, je peux pas t'attaquer finalement, mais j'ai. Au premier tour, je vais. On est au premier tour, je dis bah non, je t'attaque. Et là, toi, donc forcément, tu vas me dire mais non, au premier tour, tu peux pas attaquer. Mais j'ai déjà révélé, entre guillemets, par exemple, un pic fort. Hmm. Par exemple.
Ah là, donc là, c'est un autre point. C'est-à-dire que tu montres quelque chose que tu aurais pas dû montrer. Hmm. Alors là, moi, pour moi, c'est pas du bluff, c'est problématique, c'est presque de la triche en fait.
Ouais, mais non, mais ça, enfin, attends, en quoi ça peut. Là, tu donnes de l'info à l'autre.
Ah, mais tu mets la pression.
De donner de l'info dans la tentative de mettre de la pression à la personne en face.
Bah, attends, en lui donnant des infos, tu lui enlèves de la pression.
Ouais, alors ça c'est deux choses différentes. Ouais.
Ça se discute. Moi, je pense que c'est une des façons, par exemple, pour revenir sur le poker, c'est une des façons d'y arriver dans le bluff. C'est en te montrant extrêmement fort, en montrant des infos comme quoi tu pourrais être dangereux.
Oui, mais là, c'est pas comme quoi tu pourrais être dangereux, c'est tu montres, tu donnes, ok, du coup, tac, je sais que cette figure-là, elle a un 10 de carreau, donc il faut que je la rende prioritaire. Donc, du coup, j'ai encore moins à réfléchir, le tour prochain, il faut que je la défonce. C'est...
Oui, mais
j'ai l'impression que tu ne fous pas la pression quand tu fais ça.
Oui, non, mais juste derrière, oui, effectivement.
Par contre, t'induis un
comportement.
Induis un comportement, mais surtout, imagine-toi qu'à mon tour après. Bon, tu m'as pas tanké mon chevalier ou mon accompli avec un gros pic. Et tu moi, derrière, je l'éduque et je te mets un pic faible.
Ok, volontairement montrer une carte, quoi.
Volontairement montrer une carte. Et je pense que je suis d'accord aussi avec Grammaré que ça peut partir un peu sur une forme de triche.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que le bluff doit être combiné avec une autre dimension du Val, c'est l'éducation. On peut pas parler de bluff si on parle pas de l'éducation. C'est parce vrai. Que...
Voilà.
En fait,
c'est le point auquel je voulais venir. Je crois point, que c'est là ça. Qu'il y a le côté un peu... Là, on a l'espèce de similitude, au moins quelque chose qui ressemble au poker. Ouais. C'est sur cette partie de...
Carrément.
Sur cette partie éducative, on va dire.
J'ai eu un exemple tout à l'heure, quand je jouais contre Darky. J'avais un enfant qui avait 10 en cœur, parce qu'il avait un 9 de cœur. Je montrais à Darky que j'avais une baraka d'enfer, j'avais du 10 et tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est... Et j'ai dit que mon enfant... et donc du coup c'était pas un enfant, c'était un accompli. J'éduque mon accompli et là Darky fait putain, et en plus ce salaud il a pioché le 10, quoi. C'est à dire que l'éducation, il a tout de suite dit, il a remplacé son 9 par un 10, il s'est pas dit il l'a affaibli, alors qu'en fait le but de cet accompli c'était de perdre son cœur pour devenir un spectre, parce que j'avais mis un roi de trèfle et un 10 de trèfle. Donc voilà, non, c'était marrant, okay. Parce que du coup, Darky s'est mis la pression lui-même suite à cette éducation et c'était...
Après voilà. C'est ce que je dis, hein.
Oui, c'est vrai.
Moi, je suis le type de joueur à. J'ai pas d'autre truc à faire, par exemple, ce tour-ci, que de balancer un trèfle et de piocher. Je vais le faire en disant, après avoir lancé le trèfle, ah putain, merde, j'aurais pu poser. Ah merde, bon, bah je pioche et je fais celui qui marmonne dans sa barbe. Et l'autre se dit, ok, c'est bon, il a pas posé son enfant ce tour-là, donc il va le faire le tour prochain. Ouais. Alors que moi, j'avais que ça à jouer.
Alors, ça, je tiens à dire que ça existe aussi dans Magic, l'assemblée. Typiquement, parce que tu comparais tout à l'heure Jeff à Magic, dans Magic, quand tu regardes ton coéquipier entre la deux têtes et que tu dis bon, on contre ça ou pas? Alors qu'en fait, t'as que des îles dans la main, t'as que des terrains, tu fais semblant d'avoir un contre-sort pour mettre la pression aux autres et les faire jouer des sorts plus faibles avant de jouer leur gros sort et ainsi temporiser, gagner du temps et piocher ton contre ensuite. Donc cette dimension de bluffer sur les informations et faire semblant d'être nul pour en fait être très fort, elle existe même dans d'autres jeux de cartes. C'est pas une spécificité du Val. Là où c'est intéressant, c'est cette histoire d'éducation. où là par contre c'est marrant parce que comme c'est caché, tu peux affaiblir volontairement tes personnages pour garder tes cartes fortes. Tu montres, en fait ce que tu fais c'est que tu montres à ton adversaire des arcanes très fortes, tu les révèles au fur et à mesure tu vas les éduquer, en fait les affaiblir. Mais ton personnage, dans la tête de ton adversaire, restera le personnage fort, très fort. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne sait pas si tu as éduqué pour augmenter ou si tu as augmenté pour diminuer.
Je ferai un petit parallèle. On a vu ça donc, il n'y a pas longtemps sur une partie à 4 joueurs. Effectivement, l'éducation, ce genre de choses, je ne sais pas si vous vous en rappelez un petit peu, partie à 4, c'était quand même quelque chose à ce niveau-là.
Ah ouais, alors là, il
s'est passé quelque chose. Mon coéquipier qui m'a bluffé.
Voilà, c'est ça. Il s'est passé quelque chose, c'est que en fait, donc au Val à 4, le principe c'est que les joueurs ont le droit de parler entre eux, mais tout ce qu'ils disent doit être public. Il ne doit pas y avoir de signes cachés, etc. C'est-à-dire que s'ils disent des choses, tout le monde l'entend. Et en fait, moi, je bluffais comme un ouf sur le cœur de mon chevalier, sachant que mon cœur était très très fort. Et je bluffais depuis le début en disant qu'il avait un cœur de pacotille et tout. Alors que c'était pas vrai. Et du coup, Darky, qui était en face de moi, mon coéquipier, s'est dit bah, puisque son cœur est faible, je vais l'éduquer pour le renforcer.
Okay,
et il m'a donné un 7 de cœur et il a récupéré un 9 de cœur. Il s'est dit putain, l'enfoiré. Et en fait, là, du coup, j'ai fait perdre un tour à mon équipe en bluffant. En fait, je voulais vous bluffer, vous, les adversaires, à savoir.
Et malheureusement, c'est de ton coéquipier qui s'est retrouvé bluffé. Voilà. Ouais, pour le coup,
le 9 que j'ai récupéré, du coup, m'a permis de poser un enfant. Ça s'est bien passé.
Pour le coup, tu lui as fendu le cœur.
Voilà, c'est ça. Mais c'était marrant parce que du coup, tu donnais la sensation aux adversaires d'avoir renforcé une carte alors qu'elle était déjà très forte.
On n'a pas tenu bien le bluff parce qu'on s'est marré après tous les deux.
Là-dessus. Oui, mais bon, bah voilà, après, il était 3h du matin.
Ça restait un vrai bluff puissant réussi à convaincre 3 personnes.
Romaric, Ben, je voudrais savoir, donc je vous ai balancé ce sujet-là, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à dire? Parce que je voudrais aborder peut-être une autre phase.
Alors attends, je cherche d'autres formations propices au bluff. Donc on a parlé du fou, on a parlé de la dame, du roi accompli, on a parlé de l'éducation. Il me semble que c'est la seule. Ouais, non, c'est bon. Moi j'ai
sur un tournoi, si on joue 3 parties, de jouer 2 fois les 2 premières.
Jouer
parties.
Sur les habitudes.
Ouais,
enfin,
c'est encore c'est le coin ça pour toi.
Ouais, je pense que oui, effectivement. Mais en précisant bien que c'est sur plusieurs parties enchaînées, on va dire. Donc dans ce cas-là, moi je vois 3 points. Je vous dirai ce que vous en pensez. Donc effectivement, jouer sur les apparences. Mmh. Ça, c'est effectivement, comme le disait aussi bien Ben, en essayant de montrer certaines choses et compagnie, et, bon, c'est un peu la forme béaba du bluff. La deuxième, pour moi, ce serait effectivement sur certains types de figures. Mmh. Et la troisième, c'est sur l'éducation, tout simplement.
Oui, c'est ça. En fait,
si ça peut aider les joueurs du Val qui nous écoutent, effectivement, vous pouvez déjà avoir 3 axes là-dessus.
Je pense que cette dimension de bluff est assez rapidement perçue par les joueurs de Val, en fait. Parce qu'en fait, elle se voit quand on est faible. Quand on a une main faible, on n'a pas le choix. Si on veut gagner, si on veut l'emporter, il faut bluffer.
C'est là la différence. Des différences, je dirais vraiment majeures, vraiment notables entre le Val et le poker. C'est là vraiment qu'il y a un point de rupture, on va dire. C'est qu'effectivement, au Val, quand ta main est pourrie, si je puis dire, t'as rien qui sort, on va dire, tu peux pas faire grand-chose. Dans le poker, tu peux encore essayer de trouver éventuellement.
Tu peux te coucher, tu peux refuser le duel.
Tu peux refuser le duel, mais tu peux quand même tenter un petit peu dans le poker de faire avancer. Tu vas pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, mais t'en as un tout petit peu plus.
Ouais.
Légèrement. Je crois que c'est là, effectivement, la...
J'ai un autre petit exemple de bluff comme ça qui m'est venu en tête. C'est un des 3 points, donc
Vas-y, Ben.
Ça fait pas redondant si j'en parle. Un qui m'est déjà arrivé, qui m'a déjà sauvé la mise d'ailleurs. Une partie qui dure assez longtemps, il y a pas mal de cartes dans la rivière de la mort. À partir de là, il devient très intéressant de compter les cartes de la rivière de la mort pour estimer la valeur d'un cœur, par exemple, d'un chevalier adverse. Ouais. Et là, il m'est déjà arrivé de compter, et donc de faire bien comprendre que j'étais en train d'essayer d'estimer la carte qu'il avait, par exemple, dans le cœur de son chevalier. On compte 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans la rivière de la mort. On regarde notre main, on fait 6, 7, 8, on lève la tête. Et là, l'adversaire croit qu'on a 3 cœurs, quoi qu'il arrive, puisqu'on a vraiment compté le nombre de cœurs, on a réussi à plus ou moins estimer la valeur de son chevalier, puis on fait « Ok, je peux pas l'attaquer ». Là, l'adversaire se dit « D'accord, il a toutes les infos, donc il n'y a plus de cœurs à piocher ». Ça peut lui ruiner sa construction de partie.
C'est juste. Ça, c'est le bluff sur la fausse enfin la désinformation. C'est-à-dire que tu dis, tu comptes des cartes que tu as dans la main alors que tu ne les as pas vraiment, et inversement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est pas ce cas de figure-là, c'est l'autre.
Faire vraiment croire que tu les as pas.
C'est ça. Faire croire que je les ai pas pour. En fait, alors, moi, j'ai le 8 de cœur et je dis, putain, enfoiré, ça peut être le 8 de cœur dans ton jeu.
Ça marche aussi.
Bon, ça restera ouais, sur jouer sur les apparences, je pense.
Ouais, mais c'est ça, c'est, tu dis, putain, ça peut être le 8 de cœur. Donc, tu sous-entends à ton adversaire qu'il a l'espérance de piocher. Généralement, quand on commence à rentrer dans ces bluffs-là, c'est qu'on rentre dans le dernier quart de la nuit, j'ai envie de dire, et qu'on est très avancé dans le duel. Et donc, du coup, tu lui fais encore miroiter l'espoir de piocher un 8 de cœur. Voire, il peut chercher à te bluffer sur le fait qu'il l'a, alors qu'en fait, tu sais très bien que c'est toi qui l'a. Donc, du coup, tu as un espèce de bluff sur le bluff que tu peux dégonfler. Enfin, il y a une dimension comme ça. Mais là, à mon avis, là où la part de bluff, encore une fois, la plus importante, c'est évidemment sur le pantin. Et il y a un autre bluff, tiens, dont on n'a pas parlé, mais qui est très important et qu'on voit assez peu, c'est le bluff des figures centrales. Je m'explique. Je pose une reine de trèfle, je pose un roi de trèfle. Le gars se dit, putain, celui-là, il est fait pour devenir un spectre ou il est fait pour... parce que forcément, j'ai mis un trèfle fort... Donc, il est fait pour devenir un spectre. Enfin, quand on pose une figure de trèfle, généralement, c'est fait pour devenir un spectre. Inversement, quand on met une figure de cœur, on peut se douter qu'il y a un gros cœur à côté, etc. Et la seule information qu'a l'adversaire à ce moment-là, c'est la figure posée au centre. Et cette figure, en fait, peut bluffer. C'est-à-dire que tu peux... Ben, vas-y.
Le meilleur exemple, c'est le chevalier avec un as de cœur, mais le chevalier étant un roi de cœur.
Absolument. Absolument. Là, tu te dis, putain, le mec, il a mis son roi de cœur... Il a plus 3, il a dû barder, il a dû mettre un 10, un 9, un 8, un 7, ne serait-ce qu'un 7, déjà c'est chaud.
Exactement.
Et en fait, c'est un chevalier tout pourri en cœur. Et ça, c'est un autre type de bluff, qui est le bluff, l'information révélée par les cartes centrales va te bluffer. Mais encore une fois, le bluff le plus important, c'est pas ça, ça reste le bluff du pantin. C'est-à-dire tu fais croire qu'une formation accomplie ou qu'une formation de food mannequin, c'est généralement les deux-là qui servent au bluff, est plus faible qu'il n'y paraît. Ou au contraire, plus forte qu'il n'y paraît. Tu invites l'autre à attaquer...
Effectivement, ça reste dans le deuxième point de mon plan, c'est une certaine forme.
Bien sûr.
Donc, ça reste un bluff important. Pour moi, ce n'est pas le plus important.
Ah si.
Parce que une formation, quand elle est posée, tu dévoiles son trèfle, c'est un 6... Il n'y a pas vraiment à se prendre la tête si tu essaies de faire croire que c'est faible ou fort. À la rigueur, je ne connais pas deux cartes et ça va être problématique.
Et ça vous, ça vous est jamais arrivé quand même qu'en face à un fou, je prends un exemple, il y a un valet de trèfle, donc c'est un fou qui a déjà plus 1 en trèfle, il a plus 2 parce que c'est un fou, et il a un 5 de trèfle en arcane, donc il est à 7 en trèfle. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, putain, plutôt que de dépenser un 7 de carreau, d'utiliser mon 8 de carreau pour taper ce food man qui est probablement un food man Kent, je vais l'attaquer au pic, comme ça je suis sûr d'attaquer un truc plus faible que ça.
C'est peut-être un manque de partie, mais moi j'ai l'impression quand j'ai eu ce genre de figure, j'avais une formation, genre j'avais un mage ou j'avais un accompli qui avait un gros carreau dans la tête.
Ouais.
Et donc je me suis dit, j'avais pas l'impression de gaspiller du carreau
ouais.
de ma main. Et en plus, au moins là je savais, un peu en mode Romaric Brillant, j'avais la version risque, je savais pas son cœur, je savais que je pouvais le taper avec mon carreau, je pouvais défoncer son fou.
Ouais, mais stratégiquement, peut-être à ce moment-là, c'est plus intéressant de prendre des risques, parce que si c'est vraiment un food man Kent,
c'est possible, hein.
En comptant bien, tu peux deviner à peu près la valeur de son cœur, avec les probas, en regardant la rivière de la mort, bon, le Foodmanken, généralement, c'est au départ. Alors là, tu sais pas grand chose.
Mais voilà, toi, tu prends parti que c'est un Foodmanken, alors ouais. Et donc tu te dis, si c'est un Foodmanken, ça vaut plus le coup. Mais si on est juste stratège, on se dit, il y a 50% de chances que ce soit un Foodmanken. Donc dans 50% des cas, je suis gagnant de faire ça. Dans 50% des cas, non. Donc ça reste pas très valable, en fait. Hein.
C'est oui, un pari. Ah si. Parce que si tu gagnes ce pari-là, si par exemple, c'est un as de cœur et que pour le vaincre, tu défausses de ta dame de pique, par exemple, parce que tu as trop de figures et ta dame de pique va défoncer le fou, et bah, du coup, ton magicien, plutôt que de le focaliser, enfin, ton magicien ou ton accompli avec son carreau, parce que le magicien, encore, ça se discute parce qu'il te fait piocher une carte s'il défausse le trèfle du fou, donc là, ça devient intéressant, mais l'accompli avec son carreau, et bah, tu vas pouvoir balancer le carreau de cet accompli sur la gueule du mec directement. Et les 10 que tu perds sur le fou de Menkent, là, avec ma stratégie, tu les perds pas.
Peut-être que tu cherches trop à optimiser ton coup. Toi,
mais oui, mais bien sûr.
On recherche du coup parfait, le plus optimal.
Mais je crois que le Val, c'est un jeu. Si tu n'es pas à la recherche du coup parfait, tu passes à côté du jeu, en fait.
Ouais.
Tu perds tout le temps, et puis tu passes à côté du jeu. Parce que le Val, c'est un jeu où justement le but, c'est d'optimiser les mains qu'on a. Et ça, ça j'en démords pas. Et donc du coup, le bluff fonctionne à fond. C'est exactement comme au poker. Les joueurs de poker professionnels détestent les joueurs débutants parce qu'ils font n'importe quoi et que ça perturbe leur schéma de jeu classique. Mmh. Et ben au Val, c'est pareil. Plus on a en face de soi un joueur qui a envie de gagner, plus il connaît, plus il a de l'expérience, plus il a de chances de gagner, ça c'est vrai. Mais aussi plus il est prévisible. Et donc plus il a des. Et donc du coup le bluff est prépondérant. C'est-à-dire qu'à un moment donné entre deux joueurs, finalement lorsqu'on a l'expérience tous les deux, comme par exemple quand on joue contre Darky ou quand je joue contre Yann Sully, on a l'expérience tous les deux. On est tous les deux de très bons joueurs de Val. Ce qui va faire la différence, c'est le bluff.
Important, on peut faire gagner la game. Je suis d'accord. Clair.
Et c'est là que j'ai une grosse faiblesse, c'est que je ne maîtrise pas si bien le pantin que Cédric. J'aimerais tellement avoir sa maîtrise. Je ne maîtrise pas cette stratégie si bien.
Mais la question toute bête, est-il joueur de poker lui-même ? Enfin, oui. Est-ce que c'est un jeu qu'il apprécie ?
Oh, putain, oui, carrément, à fond.
Ouais, donc effectivement, on a un deuxième parallèle alors. Okay, ouais.
Carrément.
D'accord.
Mais Cédric, c'est le playtester qui a découvert la part de bluff au Val et qui m'a montré, regarde, là je te bluffe, là je te nique parce que ici. Tu me fais perdre un as de trèfle, je te fais perdre un 8 de carreau. Et donc je gagne, parce que je te fais perdre une grosse carte et je l'échange contre une faible. Si avec un as de carreau, je fais tomber un atout comme un 8 de carreau, si j'arrive à répéter ce processus deux fois dans la partie, ce que disait Darky tout à l'heure, le mec qui s'est bluffé, le bluff perdant, il est fatal. C'est-à-dire le mec qui se fait avoir dans un bluff, qui se fait piéger par un bluff, au Val, entre deux bons adversaires, c'est terminé. C'est comme quand aux échecs, tu te fais bouffer ta reine par erreur. Tu vois enfin, putain, merde, j'avais pas vu ce coup-là. Ben là, t'es foutu, quoi.
Ah bah oui.
N'importe quel joueur te défonce derrière, quoi. Mais là, au Val, c'est pareil. Si tu tombes dans un bluff, tu n'en sors pas. Tu n'en sors pas.
Ouais.
Donc, donc la part du bluff, elle est bizarre parce que... Elle est bizarre parce que, en fait, ça dépend de ton niveau Val, en fait. Plus t'es expérimenté, plus la part de bluff est importante.
Mais ça, c'est dans presque tous les jeux, finalement. Mm. Dans tous les jeux, il faut être suffisamment expérimenté dans le jeu pour se permettre du bluff aussi, quelque part.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Parce que si c'est un joueur débutant, c'est mon petit point de vue là-dessus, un joueur débutant qui bluffe, finalement, non, il ne bluffe pas. Il ne se rend pas compte qu'il a eu de la chance, tout simplement. Pour moi, c'est plus ça, on va dire.
Exactement.
C'est possible.
Ouais. Ah ouais, si, c'est très bien ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de la question ?
Je pense qu'on a fait le tour de la question.
Dans ce cas-là, petite question
d'ouverture,
on va dire.
D'accord.
Et du coup, dans d'autres formes du Val, notamment la forme narrative, est-ce qu'il y a du bluff ? Est-ce que le bluff existe ? Moi, je pose la question véritablement parce que je ne l'ai pas encore participé. J'ai pas encore fait de Val narratif. Et dans ce cas-là, s'il y en a. Sous quelle forme est-elle différente ? Bref.
Petite réponse rapide. Clairement, oui. Et elle est exacerbée par le fait qu'un Val narratif dure longtemps. On a tellement de noms à se souvenir que les cartes masquées, on les oublie incroyablement vite. Même les nôtres.
Même les nôtres.
Et alors, laisser une petite légende en l'air qu'on récupère, qu'on répète deux, trois fois par-ci, par-là, comme quoi cette figure, elle a un beau 10 de cœur. On le dit deux, trois fois, l'adversaire va vraiment imprimer ça pour vrai, parce que de toute façon, c'est tellement dur de se souvenir de toutes les cartes que c'est peut-être exacerbé, hein, le bluff au Val narratif.
Je me demande.
Encore plus masquer par les histoires nos réelles intentions.
Mais comme le but n'est pas de bluffer, mais de raconter une belle histoire au Val narratif, la part du bluff est quand même moins importante. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque part...
Son impact a moins d'effet, ouais, parce que c'est moins le but de... Ouais, c'est bizarre.
C'est bizarre.
C'est un terrain de jeu bien plus vaste. Il y a beaucoup plus de possibilités de bluffer.
Ouais.
Parce qu'on peut masquer ses intentions, par l'histoire.
Par l'histoire, carrément.
Mais au final, et de toute façon, c'est un peu aussi le drame de ce jeu, le beau drame, c'est qu'au bout d'un moment, on va s'apercevoir que est-ce qu'on veut vraiment jouer ou est-ce qu'on veut faire une belle histoire ? Est-ce qu'on veut éclater le gars d'en face ou est-ce qu'on...
Et si je puis dire ça, c'est assez marrant, j'espère ce que je vais dire. Je vais parler de quelque chose que je connais pas, effectivement, je n'ai pas fait de Val narratif, donc c'est un peu marrant. Mais je dirais, de ce qu'on m'en a expliqué, de ce que vous m'en avez expliqué, les gars, j'ai l'impression que dans le Val narratif, la personne en face de toi n'est pas forcément un adversaire. Il y a un côté un peu...
C'est un antagoniste.
C'est un antagoniste, mais les deux sont là quand même pour raconter une histoire.
C'est ton meilleur ennemi.
On choisit des objectifs qui sont opposés quand même.
Voilà, mais
si je dois défendre le Val, mon Val, l'autre doit m'attaquer.
Intrinsèquement, c'est pas tout à fait ton adversaire. Je m'explique.
Oui, non, parce
que dans le sens où finalement, ça va pouvoir développer un autre point, le bluff n'est valable que sur un ennemi finalement, sur un adversaire.
Alors, en fait, le point essentiel, c'est.
C'est pour ça que je voulais développer.
Alors, attends, Ouais, non. En fait, le truc, c'est que les étoiles au Val narratif sont rivales, mais les personnages ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que les étoiles, de toute façon, veulent gagner le Val adverse.
Et c'est très important, c'est primordial.
C'est primordial. C'est-à-dire, si une étoile, à un moment donné, refuse de gagner, on s'aperçoit que le Val narratif ne marche plus. Donc, il faut vouloir gagner. Donc, les étoiles doivent avoir un objectif qui leur tienne à cœur. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, les personnages, eux, sont comme dans une pièce de théâtre de Shakespeare, liés les uns aux autres. T'es toujours la sœur de ton ennemi. C'est ton ancien disciple qui se retourne contre toi. Enfin, c'est toujours les personnages. Eux, ils vivent une tragédie, en fait. Donc, au sens faible du terme, si Natacha nous écoute, une tragédie au sens un drame. Où la famille, le héros est piégé par une destinée, la famille du héros va être mise en question et va devoir être massacrée par lui et de ses propres mains, etc. Il est dans un piège infernal. Mais les étoiles, elles sont rivales. Il y a un moment donné où, par exemple, tu vas pouvoir, en tant qu'étoile, raconter qu'une dame de pique prie pour son étoile parce que tu ne veux pas que cette dame de pique utilise son arme contre un enfant. Mais n'empêche, parce que donc la dame de pique n'est pas opposée à l'enfant, ils sont presque amis ennemis quoi. Mais par contre les étoiles, elles restent ennemies. Et si tu fais prier ta dame de pique, c'est pour gagner de la majesté et pour finalement l'emporter. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord.
Donc okay. Donc en fait les étoiles sont rivales, Jeff. Donc il y a du bluff pour répondre à ta question finale.
D'accord.
D'accord. Mais les personnages ne le sont pas forcément. Et les personnages ne peuvent pas se bluffer entre eux parce que le bluff n'existe qu'entre des joueurs. Voilà.
Non mais c'est très bien, moi ça me fait comprendre un peu plus le Val narratif avant d'y jouer.
Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le bluff. T'avais quelque chose à ajouter, Ben, j'ai l'impression.
Non, je t'ai bluffé là.
Oh, j'osais même pas la faire.
Allez,
celle-là.
Bluffez bien, portez-vous bien, jouez bien.
Ciao, à plus. Val,
à plus.
À plus.